L'association Un cœur, une voix annonce qu'elle va saisir la Cour européenne des droits de l'homme après que le Conseil constitutionnel l'a déboutée hier soir. La haute juridiction reconnaît que le gel du corps électoral est conforme à la Constitution. Un accompagnement pour soutenir les jeunes sportifs calédoniens dans le haut niveau et qui mènent en parallèle des études. Le dispositif Pôle Excellence du sport universitaire a été dévoilé aujourd'hui sur le campus de Nouville. En métropole, il y a un an, Philippine était retrouvée morte dans le bois de Boulogne. Pour honorer la mémoire de leur fille, les parents de Philippine ont installé une selle sur le lieu de découverte du corps de l'étudiante. Après la Pologne et la Roumanie, autour de l'Estonie, de voir son espace aérien violé par des chasseurs russes, l'OTAN dénonce un comportement irresponsable. Les spécialistes estiment que Vladimir Poutine met à l'épreuve l'Occident. Et puis le sport et du football en Calédonie, et jour de finale au stade du Madélé, finale de la Coupe de Calédonie, l'AS Magenta rencontre Tigasport. À quelques minutes de la fin du temps réglementaire, les deux équipes sont à égalité 0-0. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. Le Conseil constitutionnel a donc débouté l'association Un cœur, une voix qui défend, vous le savez, les exclus du droit de vote et qui avait déposé une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, pour contester la constitutionnalité du gel du corps électoral. Dans sa décision rendue hier soir, le Conseil constitutionnel affirme que le gel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie est bien conforme à la Constitution. Il rappelle ensuite que le gel du corps électoral est issu de la réforme constitutionnelle de 2007, dont l'objet était d'indiquer que pour les élections au Congrès et aux assemblées de province, le corps électoral est non seulement restreint, mais également gelé en 1998. Le Conseil juge enfin que ce cadre constitutionnel ne peut être considéré comme caduque parce que si le pouvoir constituant parle de dispositions transitoires, il ne leur a pas fixé de terme. Le Conseil constate en quelque sorte que l'accord de Nouméa est une exception qui intègre des dérogations au principe d'égalité et d'universalité du suffrage. Mais comme l'accord de Nouméa est inscrit dans la Constitution, ces dérogations ne peuvent pas être déclarées inconstitutionnelles. Cette décision du Conseil constitutionnel déçoit évidemment l'association Un cœur, une voix, mais ce n'est pas vraiment une surprise, nous a dit son président Raphaël Romano.
Bien évidemment, on est déçu. On n'est pas surpris, on est déçu de la façon dont la décision est rendue. On espérait un peu plus de courage de l'institution qu'on a saisi. Ça n'a pas été le cas, mais c'était prévisible. On n'est pas surpris.
Alors, quels sont les arguments qu'invoque le Conseil constitutionnel ? Pour faire simple, il dit le gel du corps électoral n'est pas constitutionnel, mais il est constitutionnalisé.
En fait, c'est ça. Le Conseil constitutionnel reconnaît les atteintes aux principes démocratiques. Il dit clairement, il juge le fond, donc c'est son rôle également. Le Conseil constitutionnel doit juger ce qui est constitutionnel ou ce qui ne l'est pas. Là, il dit le gel du corps électoral est inconstitutionnel, mais comme c'est écrit dans la Constitution, alors c'est constitutionnalisé. C'est terrible. Donc il choisit de ne pas agir. C'est une forme de déni de justice et c'est vraiment un manque de courage.
Et maintenant que le Conseil constitutionnel s'est prononcé, il existe plusieurs voies de recours, explique Raphaël Romano, la dernière étant la Cour européenne des droits de l'homme.
Il y a plusieurs recours à effectuer. Le premier, c'est de revenir aux institutions qu'on avait déjà saisies. On a saisi le Conseil d'État et on a saisi la Cour de cassation. C'est difficile de comprendre tous les éléments juridiques quand on est à l'intérieur de la procédure, donc j'imagine bien la complexité de le comprendre pour les auditeurs et pour les Calédoniens qui ne suivent pas totalement le dossier. Pour faire simple, le Conseil d'État a transmis la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel parce qu'il estimait qu'il y avait à redire sur le gel du corps électoral. L'institution de la Cour de cassation a également transmis au Conseil constitutionnel pour dire « il y a quelque chose à revoir, ce n'est pas normal que le gel du corps électoral perdure en Nouvelle-Calédonie ». Donc, il y a une vraie contradiction entre les différentes juridictions et c'est ça qu'on va soulever. Donc on va faire et produire des écritures au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour dire vous avez transmis la question prioritaire de constitutionnalité parce que vous estimiez que c'était légitime de la transmettre au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, lui, botte en touche et dit c'est écrit dans la Constitution, donc c'est comme ça. Donc on va demander en premier lieu aux instances Conseil d'État, Cour de cassation de se prononcer et de juger, parce qu'ils n'ont pas jugé, les deux institutions-là n'ont pas jugé, elles ont transmis au Conseil constitutionnel. Donc une fois qu'elles auront jugé, on aura épuisé toutes les voies de recours prévues et on ira à la Cour européenne des droits de l'homme.
Raphaël Romano, micro Radio Rythme Bleu d'Elisabeth Noir. Et pour dégeler le corps électoral, il y a aussi bien sûr la possibilité de modifier la Constitution pour y intégrer un nouvel accord politique, comme cela devrait être le cas avec l'accord de Bougival. Au chapitre des faits divers, un homme entre la vie et la mort après avoir été grièvement blessé à la tête. Ça s'est passé jeudi soir dans le secteur de Ploume. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances des faits qui sont intervenus dans un contexte de rixe entre personnes fortement alcoolisées. À témoin de la scène, les gendarmes mobiles sont intervenus alors que le conducteur d'un pick-up qui se montrait très agressif fonçait dans leur direction. Un gendarme a tiré sur le véhicule pour le stopper, mais on ne sait pas si son tir a atteint la personne blessée à la tête. Le conducteur du pick-up et le gendarme mobile auteur du coup de feu ont tous les deux été placés en garde à vue. La 31e édition de la foire agricole et artisanale de Coumac et du Nord se poursuit sur le champ de foire. Pour ce deuxième jour de fête, les visiteurs sont nombreux à circuler entre la centaine de stands présents sur le site et à profiter évidemment des animations. À Coumac, on retrouve Kalinda Boicou.
Dès l'ouverture des portes ce matin, de nombreuses animations étaient proposées sur le site, notamment une dégustation de viande locale, concours de barbecue, une démonstration de tente de mouton ou encore le fun car et le défilé des super champions taureaux et génisses, chevaux, des rodéomans après les discours d'ouverture. Les visiteurs étaient nombreux à venir applaudir les jeunes du RSMA en début de cortège.
Pour l'instant, c'est nickel, donc il n'y a rien à dire, on voit de tout, donc c'est super. Le défilé du SMA qui était super et là, je viens de voir les miss passer, donc la Miss Coumac, elle est super jolie en plus.
Regarder un peu de tout, histoire de sortir un peu, découvrir un peu ce qu'ils vendent. Déjà, je suis allée emmener mon fils pour qu'il regarde un peu tous les animaux. Voilà, vu qu'on vit sur nous-mêmes, puis on monte de temps en temps enfin, chez ma famille, mais du coup là, j'en profite à lui de découvrir la nature un peu en venant dans ce stand. Il y en a des canards, là, ce que je vois, il y en a des poules, des poussins, et lui, ça lui fait très plaisir.
On va faire un tour des stands et puis voir ce qu'on peut trouver. Enfin, je suis venue chercher des légumes. C'est bien, il y a beaucoup d'animaux. Ben, je suis venue par rapport à ma fille.
C'est super. C'est représentatif de la foire de Coumac, quoi.
La course de stock-car, c'était intéressant quand même. Je pense qu'ils doivent s'amuser. Ils s'éclatent.
Ben, on vient du fun car. Oh, ça va, c'est bien. Ce pilote aussi, il gère bien. Et ça embellit un peu notre journée. Quoi.
Parmi la centaine d'exposants présents sur le site, le RSMA, présentation avec le lieutenant-colonel Faldoni Réveillant, le directeur du RSMA de Nouvelle-Calédonie.
Cette année, nous sommes présents avec nos différentes filières de formation professionnelle qui sont là pour montrer leur savoir-faire, que ce soit dans le secteur primaire, dans le domaine de l'accompagnement, dans le domaine de la sécurité également, puisque nos pompiers et nos agents de sécurité civile sont présents pour le bien-être de cette foire. Alors sur le site, leurs actions sont diverses et variées. Nous avons des agents d'accueil qui sont là pour contribuer à la restauration des convives et des invités. Nous avons nos filières d'élevage et d'agriculture qui présentent également leur savoir-faire. Et puis tout l'environnement sécuritaire qui est également représenté avec en particulier nos sapeurs-pompiers et nos équipiers de sécurité civile.
Et pour clôturer la journée, le rodéo nocturne prévu à 19h30. Les précisions de Laurent Moglia de la commission rodéo.
On a 20 montes sur chevaux et 20 montes sur taureaux. Avec toutes les associations de Nouvelle-Calédonie, j'ai bien toute la Calédonie, pas juste ni l'Union ni la Fédération, c'est tout le monde. Tout le monde est mélangé. Combien de cavaliers exactement? J'ai pas le nombre. Je sais qu'on a 20 montes sur chevaux et 20 montes sur taureaux, et donc ça doit nous représenter une trentaine de cavaliers parce qu'il y a à peu près 7-8 cavaliers qui font les deux montes.
Le rodéo de la foire de Coumac, c'est un rendez-vous important pour le Nord?
Ben pour tout le monde quoi. Hein. Le rodéo de Coumac, c'est un peu comme le rodéo de Bouraille quoi. C'est celui qu'on veut participer, c'est celui qu'on veut gagner. Donc et l'avantage qu'il a, c'est qu'il fait monter tout le monde. On aura des animations. Alors pas de cochons cette année. Voilà. Mais il y aura certainement des jeux avec les cavaliers qui seront présents sur place. Peut-être le jeu du taxi, le jeu du foulard. Enfin voilà, on animera, surtout s'il y a des temps morts. Mais ça sera priorité au rodéo. Et on est là vraiment pour essayer de faire un beau spectacle. On a quand même 40 montes, ça va représenter à peu près 2 heures de rodéo quand même, minimum. Donc en espérant qu'il n'y ait pas de casse et puis que tout se passe bien.
Rappelons que la Miss Foire de Coumac et du Nord 2025 est Mal de Villers. Elle a été élue hier soir. Et ses premières et deuxièmes dauphines sont Alison Eman et Laura Moglia. La journée se clôturera par le karaoké géant et le rodéo prévu à 19h30 ce soir. Les animations reprendront demain à 8h jusqu'à 16h. Jaune Fort de Koumac, Kelinda Boicou, Radio Rythme Bleu.
Merci Kelinda et on vous retrouve demain bien évidemment dans les matinales. La fête du ukulélé a débuté ce matin, c'est au parc Paul Bloch à Ploum, au Mont d'Or. Journée rythmée par des concerts et des animations. Écoutez Elisabeth Rivière, maire du Mont d'Or.
Nous avons décidé cette année d'amener cette fête sur le quartier de Ploum pour permettre aussi aux Mondoriens du Sud d'avoir aussi des animations. Et puis vous savez que cette partie sud, il y a une forte communauté polynésienne. Et donc tout ça mis à bout, c'est ce qui nous a fait nous décider. L'objectif de cette manifestation, c'est de faire redécouvrir la communauté polynésienne et surtout cet instrument, le ukulélé, qui rassemble nombre de Calédoniens. C'est un instrument qui est beaucoup utilisé sur toute la Calédonie. Et pour nous, c'est encore de retisser les liens. Nous travaillons à recréer ces liens et à recréer ce vivre ensemble si cher à notre cœur et si cher à la commune du Mont d'Or.
Et la fête du ukulélé est un vrai moment de partage autour de la culture polynésienne.
Alors moi aujourd'hui je suis ici pour découvrir la fête du ukulélé, la musique ukulélé et tout ce qui est les origines et la culture, parce que moi je viens d'arriver sur le territoire il y a un mois. Donc voilà, c'est pour l'enregistrement personnel et la découverte de la culture.
Je suis venu à la fête du ukulélé avec ma femme et mes enfants, histoire de faire une sortie en famille. Oui, ça nous fait rappeler toujours l'ambiance du Pacifique.
Je suis venue pour la journée du ukulélé parce que c'est ma culture. Et puis c'est pour aussi encourager ma famille qui passe pour les spectacles.
Aujourd'hui je suis venue, c'était juste pour faire ma danse tahitienne.
Et la fête du ukulélé est prévue pour durer jusqu'à 20h ce soir. C'est au parc Bloch à Ploum, au Mont d'Or. Un dispositif pour aider les jeunes sportifs de haut niveau à réussir leur parcours dans les grandes compétitions, mais aussi leurs études. Le PSU, le pôle excellence du sport universitaire, était officiellement dévoilé aujourd'hui sur le campus de Nouville. Éric Michalak est le directeur du service des sports universitaires de la Nouvelle-Calédonie.
Concrètement, ce qui change pour eux, c'est qu'ils sont accompagnés. Si je prends le versus académique, ils ont quand ils sont en période de compétition, des examens qui sont décalés, spécialement pour eux. Ils ont des cours qui sont pris par des tuteurs étudiants. Ils ont des adaptations au niveau du planning faites par les tuteurs enseignants. Ils ont une priorité d'accès donc au niveau des logements. Mais tout ça, ça rentre dans le cadre d'une circulaire ministérielle qui est réservée aux étudiants athlètes de haut niveau. Pas que de chez nous, au niveau métropolitain. Comme dans toutes les universités, on a donc une cellule qui fait donc du SHN, statut haut niveau, et du SBN, statut bon niveau.
Des athlètes bénéficient déjà de ce dispositif, par exemple Phoebe Rocher, championne de France et du monde de kitesurf junior, ou encore Vadim Strugar, champion d'Australie du décathlon et champion de France des moins de 18 ans aux 110 mètres haies en 2024. Tous deux sont en parallèle étudiants à l'Université de la Nouvelle-Calédonie.
Moi je suis en BUT-GEA à l'IUT, à l'université. Donc en fait le PSU, ça englobe tout ce qui est en dehors du sport, c'est tout ce qui est extra-sportif. C'est une organisation qu'on est vraiment mis en valeur et surtout on nous aide à avoir un double projet sportif et ne pas choisir que les études ou le sport.
Le PSU, ça me permet d'avoir un emploi du temps aménagé. Je peux aller naviguer dès qu'il y a du vent. Je peux partir pendant l'après-midi. Je peux m'entraîner tous les jours. Et sinon, ça me permet aussi d'être absente lors de mes compétitions. Donc des fois, c'est sur des grandes périodes. Là, bientôt, je vais partir 2 mois. Je rattrape les cours à distance. Ils me font des aménagements pour rattraper les examens aussi. Donc vraiment un accompagnement de A à Z.
Une cérémonie est organisée ce samedi à la mi-journée en présence de nombreux partenaires du PSU. Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud.
Ça prouve le dynamisme de l'université, encore une fois. Et on a des jeunes athlètes calédoniens qui sont sur les listes ministérielles. Et c'est important qu'ils n'aient pas à choisir entre leur carrière sportive et leurs études et qu'ils puissent mener en Nouvelle-Calédonie à la fois les deux. Le sport, ils le font de manière brillante et les études, qu'ils le font également de manière brillante. Et tout ça avec les parents qui les accompagnent. Donc pour nous, c'est important d'accompagner ces jeunes-là. La promesse le fait à travers des subventions sportives qui sont sur les listes, mais que l'ensemble des institutions se mobilisent pour faire en sorte que pour les prochains Jeux olympiques, on ait encore davantage de Calédoniens qui y participent.
Il était également présent lors de cette cérémonie des représentants de l'État, du gouvernement, du CTOS et du monde sportif en général. Le dispositif était dévoilé à l'occasion de la Journée internationale du sport universitaire. Il est 17h59, on va marquer une première pause dans le journal. À suivre l'actualité en métropole et dans le monde.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Et 18h sur...
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Et 18h sur RRB, la suite de votre journal avec Lionel Sabot.
Et l'actualité en métropole, c'était il y a tout juste un an. Philippine était retrouvée morte dans le bois de Boulogne, dans l'ouest de Paris. Un drame qui avait choqué toute la France. Pour honorer la mémoire de leur fille, les parents de Philippine ont installé une stèle sur le lieu de la découverte du corps de l'étudiante. Des personnes sont venues se recueillir pour lui rendre hommage. Mathieu Prieur pour Europe 1.
En plein jogging, William s'arrête devant la stèle en granit noir portant le prénom de Philippine. Il se recueille quelques instants et fait un signe de croix.
Cet enfant, la Philippine, aurait pu être mon enfant. Moi, je suis père de famille et du coup, je trouve ça dramatique ce qui lui est arrivé. Mais en plus, révoltant. Pour mes 5 filles, je fais encore plus attention qu'avant.
Sur la stèle, c'est quelques mots. Pensez à elle et qu'elle vous protège. Cachée par des arbustes, elle est entourée d'un massif de fleurs. Laurent s'approche. Il reste silencieux plusieurs dizaines de minutes. C'était important pour lui de venir.
Ça touche tous les parents, quels qu'ils soient, les frères et sœurs. C'est important de venir, de se rassembler, de ne pas oublier, de respecter sa mémoire et surtout d'agir.
Agir, c'est ce que demandent les personnes venues rendre hommage à Philippine. Il y en lui dépose une rose blanche, il est en colère.
Il y a des choses si simples à mettre en place qui permettraient d'éviter ce genre de choses. Appliquer des OQTF, quand on voit le nombre d'OQTF qui sont réellement appliquées et la façon dont elles sont appliquées, il y a des choses à faire et ça me met hors de moi de voir qu'il y a des personnes qui laissent passer ce genre de choses et qui se sentent absolument pas responsables.
Tous ont prévu de revenir régulièrement se recueillir devant la stèle de Philippine.
Et j'ajoute que le principal suspect dans cette affaire, un Marocain de 23 ans sous OQTF, a reconnu les faits. Il avait été arrêté en Suisse quelques jours après le drame. Il est actuellement incarcéré et mis en examen pour meurtre accompagné d'un autre crime et viol en récidive. Actualité politique avec le congrès de rentrée du parti Renaissance ce week-end. Sébastien Lecornu y était présent hier pour échanger à huis clos avec les députés du mouvement qui ont fait leur séminaire de rentrée. Déplacement anticipé qui met en lumière une cohabitation assez délicate au sein du camp présidentiel entre l'ancien et le nouveau chef du gouvernement. Sébastien Lecornu et Gabriel Attal, longtemps rivaux, sont désormais contraints d'avancer ensemble, mais leur relation reste fragile. Arthur Delaborde.
Entre Gabriel Attal et Sébastien Lecornu, la cohabitation n'a rien d'évident. Révélé par le macronisme, les deux hommes ont gravi les marches du pouvoir à toute vitesse, mais leur relation est marquée par la rivalité. Le nouveau Premier ministre a pourtant tendu la main à son prédécesseur, l'appelant dès sa nomination pour promettre une méthode fondée sur la concertation, car Gabriel Attal a besoin que Sébastien Lecornu tienne, afin d'écarter le spectre d'une dissolution qui ruinerait ses ambitions présidentielles. De son côté, l'ex-ministre des Armées ne peut durer à Matignon sans l'appui du parti, mais la méfiance persiste, les entourages se surveillent et leur façon de faire reste opposée. Gabriel Attal, adepte de la communication offensive, Sébastien Lecornu, partisan de la discrétion, en témoigne sa visite express hier soir auprès des députés Renaissance à Arras et son absence annoncée demain lors du discours de Gabriel Attal devant les militants.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 à l'étranger. Moscou récidive après la Pologne et la Roumanie. Autour de l'Estonie, de voir son espace aérien violé par trois chasseurs MiG-31 russes. Le vol s'est déroulé en stricte conformité avec les règles internationales, se sont défendus hier les autorités russes. Pourtant, l'OTAN dénonce un comportement irresponsable. Les trois avions militaires russes sont restés pendant plus de 10 minutes dans l'espace aérien d'un pays de l'Union européenne et de l'OTAN. C'est la preuve que Vladimir Poutine met à l'épreuve la détermination de l'Occident, précise le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air.
Les Russes sont assez coutumiers du fait dans la mer Baltique, mais là, en l'occurrence, ils ont coupé complètement leur identification et ils sont vraiment rentrés dans l'espace aérien estonien. Ces avions-là, ils savent parfaitement où ils sont, ils ont tous les moyens de navigation, donc s'ils sont dans l'espace estonien... C'est un par hasard, donc oui, ça fait partie de cette espèce d'intimidation de M. Poutine. L'enjeu, c'est bien la mer Baltique, hein, qui lui a été fermée plus ou moins avec l'accession de la Finlande et de la Suède. Donc, à un moment donné, il faut savoir dire non, montrer ses muscles si on veut se faire respecter.
Le général Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, invité d'Europe 1 Week-end. L'actualité dans la région Pacifique, à Port-Moresby, le général Sin Garok, l'ancien commandant en chef des forces armées papou, qui est aujourd'hui à la retraite, a déclaré que le traité appelé Puk-Puk et que s'apprêtait à signer le premier ministre australien Anthony Albanese et son homologue papou James Marape n'est probablement pas conforme à la Constitution de Papouasie, correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le général Sin Garok a déclaré dans un communiqué que le traité Puk-Puk, je cite, est une erreur stratégique, un véritable champ de mine et n'est probablement pas conforme à la Constitution. Il a été conçu pour servir les intérêts australiens au détriment de ceux de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, a-t-il estimé. La constitution papoue, a-t-il expliqué, ne prévoit pas d'intégration militaire avec un autre pays. Les forces armées papoues ont pour mandat de servir les intérêts souverains de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, a-t-il rappelé, et tout accord visant à les intégrer aux forces armées australiennes pourrait compromettre la souveraineté nationale de notre pays. La Papouasie-Nouvelle-Guinée n'est pas à vendre, a-t-il insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
18h05, une dernière pause dans un instant, sport et météo.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en 3 lettres. RRB.
18h06, suite et fin du journal avec Lionel Sabou.
Et on va parler sport et jour de finale en football. Le stade du Manelet est le théâtre de la finale de la Coupe de Calédonie de football. L'AS Magenta rencontre Tigasport. Michael Juneski, vous êtes au stade de Magenta. La rencontre s'est terminée il y a quelques minutes.
Absolument Lionel, sur une victoire, nouvelle victoire de l'AS Magenta. C'était il y a vraiment quelques minutes, vous venez de le dire, vous entendez derrière moi les applaudissements évidemment du public, des supporters de l'AS Magenta. On rappelle hein, que l'AS Magenta, club le plus titré dans la compétition, voulait absolument décrocher ce trophée cette année puisqu'elle a déjà été battue en play-off de la Super League. Elle affrontait une vaillante équipe de Tiga. Tiga en lice de son côté pour également tenter de remporter le championnat de la Super League. Tiga a pu se qualifier pour la finale de la Super League, mais pas Magenta. Magenta s'est rattrapé, une victoire 1-0, mais je peux vous dire que la victoire a mis du temps à se dessiner. Un but au bout du suspense dans le temps additionnel sur une tête, finalement. L'ASM qui a pris l'avantage après avoir, il faut bien le dire, pris l'avantage dans le jeu. Tout d'abord, une possession du ballon supérieur, une maîtrise du jeu, une solide défense. Tiga faisait face aux assauts répétés mais jouait la contre-attaque et a tenté d'être incisive mais sans parvenir à inscrire ce premier but. Un peu de jeu important sans doute dans cette victoire. Le carton rouge côté Tiga pour Toto après une faute sur Aiwigene peu avant la fin du temps réglementaire. C'est donc à 10 contre 11 que les joueurs de Tiga ont désormais fini la rencontre. Et donc Magenta qui a fini avant une fatidique séance de prolongation voire de tir au but, eh bien de prendre l'avantage 1-0, une victoire sur la plus petite des marques, mais vous l'entendez derrière moi, les joueurs, le public qui célèbre. On rappelle que le vainqueur donc de cette finale de la Coupe de Calédonie de football, l'AS Magenta, jouera par la suite à nouveau le 7e tour de la Coupe de France, un 7e tour qui se jouera cette année à domicile pour l'AS Magenta en direct du stade Newman.
télé, Mickaël Dunfin, RRB.
Merci Mickaël. D'une finale à l'autre, la finale du championnat territorial de rugby à 15 se dispute également ce soir. Duel pour le titre qui oppose le rugby club du Mont d'Or à l'Olympique de Nouméa. Le coup d'envoi de la rencontre a été donné à 17h sur la pelouse du stade de Rivière-Salée. La reine du sud de Païta était le royaume des jeunes basketteurs. Ce samedi, en marge des matchs du championnat, l'association Edjo a créé pour rendre hommage à Mimi Castex, décédée en 2021. Des centaines de jeunes pouvaient prendre part à des ateliers ou encore des concours entre les matchs.
Je fais du basket et c'est vraiment cool. On prend des ballons, on drille et puis après, il y en a qui détruit, puis après on doit remettre les plots et puis après il y en a d'autres qui viennent et puis qui balancent les plots puis les autres doivent les remettre. C'est cool.
Le but c'est... Il y a deux, ils vont au milieu et les autres ils passent pour gagner.
Ça se passe bien. On tombe, on fait... Les destructeurs, ils font tomber les plots et les constructeurs, ils remettent les plots à l'endroit.
Il faut tirer.
Ici, ils doivent mettre les ballons dedans et là, après, il y en a un autre qu'ils doivent remettre dedans. Et ici, là, ils doivent taper la balle et faire des petits tours.
Une journée qui a tenu toutes ses promesses. Une fierté pour Pierre-Olivier Castex, le fils de Mimi.
Ça fait plaisir de voir depuis 8h ce matin des jeunes qui parcourent les terrains de basket. Une journée consacrée justement à la mémoire de notre papa grâce à l'association Edjo qui, comme chaque année, essaie de commémorer sa mémoire en organisant des petites activités. Remercier la Ligue de basket d'avoir justement permis à l'association de pouvoir s'intégrer justement à ce tournoi senior et jeune. C'est une nouvelle fois encore cette année une fierté pour nous, la famille.
Et on rappelle que Mimi Castex avait notamment évolué avec les Harlem Globetrotters, l'association Ageo, créée en sa mémoire pour vocation de soutenir les jeunes sportifs calédoniens dans leurs projets de haut niveau. La jeune sélection calédonienne de cyclisme a achevé son tour de Polynésie française. Ils étaient 5 engagés sur le Tour Tahiti Nui durant une semaine lors de la 6e et dernière étape entre Harway et Pirae. Nos représentants ont tenu leur rang pour conserver le maillot vert d'Hugo Pommelet qui finit meilleur sprinter. L'ultime journée a encore réservé son lot de surprises, comme nous le dit Kéril Moutry, l'un des coureurs de la sélection.
Cette étape a été plutôt compliquée pour moi puisque j'ai heurté un coq au milieu de l'étape. J'avais pas d'objectif particulier si ce n'est que d'assurer à Hugo d'avoir le maillot vert, tenir jusqu'à la fin pour que l'équipe ne finisse pas très loin dans le classement des équipes. Ce que j'ai fait, donc j'ai malheureusement shooté un coq et j'ai manqué de me planter également dans la dernière descente du Tahara où on était légèrement derrière avec Hugo. Et après, ça a été un peu compliqué de revenir parce que j'avais gris une cartouche et en manquant de tomber, c'était un peu stressant. Sinon, globalement, je suis assez content du tour. On a eu ce qu'on voulait, on a eu le maillot vert et en bonus, on a eu des bonnes places de Hugo Pommelet et Thomas Rizzolatti sur les classements des meilleurs jeunes où ils finissent respectivement deuxième et troisième.
Il était également engagé sur ce tour de Calédonie et sur ce tour de Tahiti 2025. Et Kyrian Moutry, Grégory Potier, Hugo Pommelet qui termine donc meilleur sprinter et deuxième meilleur chez les jeunes. Encore Thomas Rizzolatti, troisième meilleur jeune au classement général et troisième des sprinters. Allez, le sport en métropole et dans le monde avec du football. La 5e journée du championnat de France de Ligue 1 en ouverture de cette journée. Ce matin, l'Olympique Lyonnais recevait Angers. Ce sont les Lyonnais qui se sont imposés 1-0. Suite de la compétition demain matin pour nous. Nantes recevra Rennes, Brest accueillera Nice et Lens recevra Lille pour le grand derby du Nord. Lundi matin, à suivre Paris FC Strasbourg, Auxerre Toulouse, Le Havre Lorient, Monaco Metz et le Classico entre Marseille et le Paris Saint-Germain. La demi-finale du 15 de France de rugby contre l'Angleterre au Mondial féminin, c'est ce soir. Les tricolores vont devoir s'employer pour surmonter l'obstacle britannique. Les grandes favorites de la compétition en terre anglaise. Mais les Bleus rêvent d'un exploit, à en croire Morgane Bourgeois, arrière du 15 de France.
Voilà, c'est une équipe difficile à battre, qu'on a peu battue dans l'histoire du 15 de France. Mais là, c'est une demi-finale de Coupe du Monde. C'est un événement qui arrive une fois tous les 4 ans, chez elle en plus, donc forcément ce serait une chance exceptionnelle de les battre, ce serait un exploit, ouais, mais ce serait surtout les décrocher une passe en finale pour cette compétition.
Un crunch au féminin France-Angleterre qui sera à suivre la nuit prochaine. Coup d'envoi de la rencontre à partir d'1h30 du matin. Une petite stat, les Françaises restent sur 16 défaites consécutives face aux Anglaises. Les gagnantes retrouveront en finale dans une semaine les Canadiennes qui ont triomphé des Black Ferns et néo-zélandaises 34-19 ce matin.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
La troisième journée du Top 14, le championnat de France Élite, ce soir pour nous et dimanche matin à suivre Clermont-Pau, Castres-Bayonne, Lyon-Stade Français, Perpignan-Racing 92, Bordeaux-Bègles-Montauban ou encore Montpellier-Toulouse. Cette troisième journée du Top 14 s'achèvera lundi matin pour nous. Toulon recevra La Rochelle, ce sera au Stade Mayol.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
17e rendez-vous de la saison de Formule 1 ce week-end à Bakou en Azerbaïdjan. À 7 grands prix de la fin de la saison, on pourrait déjà revoir, pourquoi pas, les McLaren décrocher un deuxième titre constructeur consécutif dès ce week-end. Christopher Filhoc pour Europe 1.
12 victoires en 16 courses, 7 doublés. McLaren a depuis longtemps laissé ses rivaux dans le rétroviseur cette saison et un nouveau doublé offrirait le titre à l'écurie. Carlos Sainz, pilote Williams, donne son point de vue extérieur sur cette performance.
C'est surtout McLaren qui a franchi un cap impressionnant. Ils ont surpris tout le monde. Si vous regardez Mercedes, Red Bull et Ferrari, elles sont au même niveau qu'en fin d'année dernière. Mais McLaren a vraiment fait un grand pas en avant.
McLaren devrait donc remporter facilement son 10e championnat constructeur, dépassant ainsi l'écurie Williams et se rapprochant des 16 titres de Ferrari. Un week-end où il sera également question de lutte pour le championnat du monde pilote entre Lando Norris et son coéquipier Oscar Piastri. Oscar Piastri, vainqueur sur ce même tracé d'Azerbaïdjan l'année dernière et actuellement en tête du classement des pilotes avec 31 points d'avant.
Et à suivre ce soir à partir de 23h la séance de qualification, le Grand Prix se courra demain soir, départ de la course, 22h, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Et si nous terminions ce journal avec la météo?
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Jennifer.
Merci Lionel. Le ciel sera bien chargé cette nuit sur la côte Est, avec des averses qui pourraient être assez fortes par moments. Sur le reste de l'île, notamment sur l'Ouest, le ciel sera moins nuageux et les étoiles pourront même être visibles. Le vent de secteur Est va s'affaiblir, il soufflera entre 10 et 15 nœuds et jusqu'à 20 nœuds sur la pointe Nord. La côte ouest sera plus protégée du vent, mais il pourrait s'accélérer jusqu'à 15 nœuds en sortie de certaines vallées. Les températures minimales seront assez élevées pour la saison, aussi entre 18 et 22 degrés. Et sur l'ouest, elles pourraient descendre un peu plus bas, mais difficilement en dessous de 16 degrés. Un petit aperçu pour demain matin. Sur la côte est et à l'île des Pins, le temps restera très nuageux, avec des averses qui seront plus soutenues sur la côte est. Et ailleurs, en particulier sur l'ouest, le soleil sera plus présent et le ciel plus dégagé. Quelques averses isolées sont toutefois possible sur les îles Loyauté. Côté vent, il restera faible sur l'ouest avant de passer au sud-est autour de 10 nœuds. Et dans les autres régions, le vent d'est soufflera entre 10 et 15 nœuds avec des rafales possibles allant jusqu'à 20 nœuds sur la pointe nord, Marais et l'île des Pins. En résumé, la côte est et l'île des Pins resteront sous les nuages et la pluie tandis que l'ouest profitera d'un temps plus ensoleillé. Lionel.
Oui, c'est Lionel, c'est ça. Merci Jennifer, mais c'est très difficile à prononcer Lionel, notamment pour les enfants.
Et Jennifer, 18... c'est plus facile.
C'est beaucoup plus simple. 18h17, la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous le retrouverez d'ici quelques minutes en réécoute sur notre site internet, le www.rrb.nc. Excellente soirée. On se retrouve à 19h pour un nouveau point sur l'actualité.